Le thème de la prédication de ce dimanche est intitulé « Mets ta confiance en l'Éternel ». Et ce thème est tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15 et du verset 21 à 22. La lecture sera faite par le diacre Basile.
2 Chroniques 20, verset 15 et verset 21 et 22. Verset 15, il est écrit, « Et Jassaziel dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Verset 21 et 22, il est écrit, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaçait une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen.
Amen.
Alléluia. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Parce que toute ma confiance est en toi. Et je mets ma confiance au Dieu. Je connais que ce Dieu peut me délivrer. Ah, la vie d'un enfant de Dieu est jonchée. Des combats, des détresses, des pleurs, des angoisses, de beaucoup de maladies. Et là, notre confiance en Dieu est mise à rude épreuve. Aurons-nous toujours confiance en Dieu ? Ou bien nous allons tourner le regard inquiet. Dieu dit, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Mais pourtant, nous passons par là où nous avons beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de troubles. La confiance. Pour essayer juste d'expliquer, c'est quoi la confiance? Mais là, c'est une espérance ferme qu'on a envers Dieu, que les vents se lèvent, que les flots de la mer se lèvent, que les vents soufflent contre ma vie comme cette barque qui était dans la mer. Ma confiance est en Dieu. C'est là où notre confiance doit s'exprimer. Après, mais la question, qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu en qui nous avons confiance? Je veux parler un peu des attributs et des noms de Dieu. Alors, lorsqu'on voit des attributs de Dieu, on dit, il est omniscient, c'est-à-dire, il connaît tout. Lorsque les gens sont venus vers Jésus avec un malade, Jésus regarde le malade et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient là, les scribes, c'est-à-dire les docteurs de la loi, commençaient à murmurer dans leur cœur. Nous sommes dans un quartier, dans une maison, et quelqu'un, un individu, ose dire, tes péchés te sont pardonnés. Alors, il faut comprendre, comment ça se faisait le pardon des péchés? Ça se faisait à l'église, là où nous sommes. Bon, écoute, c'est pas la forme, mais il y avait le lieu saint et très saint. Et le souverain sacrificateur prenait un animal, il va donc sacrifier l'animal, et dans le lieu très saint, il fait l'expiation des péchés pour celui qui a péché. Et c'est Dieu qui pardonne. Comment quelqu'un dans un quartier, dans une maison, peut avoir le courage ou l'audace de dire, tes péchés sont pardonnés? Il est écrit, Jésus, connaissant leurs pensées, ils pensaient dans leur cœur, mais Jésus connaît leurs pensées. Jésus connaît nos pensées. Là où tu es assis, là où tu es assise, ce que tu penses de ton frère, ce que tu penses de ta sœur, ce que tu penses du clergé, Jésus connaît. Donc ce Dieu connaît tout. En qui j'ai mis ma confiance, il connaît toute ma vie. Il sait que demain tu vas passer par telle épreuve, par ceci ou par cela. Il te connaît. Ce Dieu est omnipotent. C'est-à-dire, il est de tout puissant. Toute la puissance est à lui. Et quand nous lisons toute la Bible, nous voyons comment Dieu s'est glorifié. Comment il a divisé la mer rouge. Comment il a sorti l'eau du rocher. Comment il a fait marcher les paralytiques. Comment il a ressuscité les morts. Ce Dieu-là a toute la puissance. C'est en lui que tu vas avoir toute ta confiance. Et il est présent partout. Dans mon sommeil, dans mon voyage, partout, il est présent. Alors revenons sur le passage que nous avons lu. Le chapitre 20 du livre de 2 Chroniques nous parle du roi Josaphat. Qui était Josaphat? C'était le fils du roi Asa qui craignait Dieu. Et ce roi Asa a transmis à son fils la crainte de Dieu. Seulement, Josaphat avait plus la crainte de Dieu que son père. Il a détruit les hauts lieux. Il a détruit les idoles. Il a envoyé les Lévites dans tout Israël pour prêcher la parole de Dieu, pour ramener le cœur d'Israël ou de Juda vers l'Éternel. Mais c'est ce Dieu-là, plutôt c'est ce roi-là, qui craignait Dieu, qui va avoir une nouvelle qui va le troubler. Pendant qu'il était assis, on ne sait pas s'il lisait la Bible, ou s'il prenait son café, ou s'il était en train de causer, et on vient lui dire, au verset 2, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Ça veut dire quoi? Une coalition des nations. Il y avait les Moabites, les Ammonites et les Moanites. Donc c'était une multitude nombreuse qui s'avance contre toi pour venir attaquer ton royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand ces gens viennent pour attaquer son royaume, on va tuer le roi, on va tuer ses enfants, on va tuer ses femmes, on va tuer même le peuple et le reste sera amené en esclavage. Et il y avait tellement de cruauté qu'on éventrait même les ventres des femmes enceintes, les bébés de 6 mois. On fait sortir des ventres. C'était tellement atroce. Et le roi est troublé. Je veux juste poser une question ce matin. Qu'est-ce qui nous trouble? Quand tu as traversé la porte de l'église, avec quel trouble tu es entré ici? Il y a une sœur qui est à l'église. Et d'habitude, elle avait l'habitude de faire un check-up, de toujours voir sa santé. C'était des examens de routine, il n'y avait pas de problème. Ce jour-là, elle parlait à l'hôpital. Comme d'habitude, elle fait ses examens et le médecin la regarde. Il est un peu troublé. Et il ressent dans les yeux du médecin qu'il a un petit trouble. Et elle dit au médecin, mais qu'est-ce qui se passe? Le médecin hésite un peu et le médecin lui dit, vous avez un début de cancer de sein. Je suis parti chez moi sans problème. J'ai fait le mois passé les examens, les visites, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, tu me dis que j'ai un début de cancer de sein. Le trouble commence. On commence à voir la chimiothérapie, on commence à voir la mort, on voit tout. Il y a des moments où, peu importe que je sois un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté, il y a des moments où le trouble vient dans ma vie. Dieu peut permettre ce trouble-là pour que la gloire se manifeste. Et le trouble ici est entré. Quel est notre comportement pendant le trouble? C'est ça. C'est ça la différence. D'autres se confient. Mais il est écrit dans sa frayeur, verset 3, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Il s'est disposé. Il a eu ce trouble-là. Une multitude nombreuse s'avance contre moi. Et il s'est disposé. Oh Dieu, c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Cherchez l'Éternel. Quand nous sommes troublés, quand nous avons des nouvelles, quand nous avons des attaques, quand nous avons des combats et autres, nous devons être disposés. Alors, tout se trouve dans disposer. Que veut dire disposer? Remettre toute sa confiance en Dieu, toute son attention en Dieu. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Donc je suis disposé à chercher ce Dieu-là. Tout mon cœur, nous avons tous des combats à quelque niveau que ce soit. Chacun a son niveau. Il y a des problèmes qui sont très élevés, il y a d'autres qui sont moyens. Mais dans ces problèmes-là, nous devons être disposés à chercher l'Éternel. Écoutez la parole de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Il fera quoi? Il agira. Quand nous avons la confiance en Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il agit toujours. Cette confiance, c'est chercher Dieu de tout son cœur. Il agit. Alors on a dit à Josaphat, voilà ce qui va se passer. Josaphat est troublé. Il a mis la confiance en Dieu. Mais il n'est pas resté les mains croisées. Quelle était la stratégie de Josaphat? Il est écrit au verset 3b. Il publia un jeûne dans tout Juda. Juda, c'est un royaume. Il dit, tous nous allons jeûner. Les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants. Dans mon royaume, on va jeûner. Je prends un exemple. C'est comme si nous sommes ici. Et on a un problème. Et le président se lève. Au Cameroun, on va jeûner. Donc, on jeûne ici à Yaoundé. On jeûne à Maroua. On jeûne à l'Est. On jeûne au centre. Tout le pays. Vous pensez que Dieu ne va pas exaucer ce jeûne-là? Dieu ne va rester tranquille. Il va croiser les mains. Pendant que tout le peuple est en train de jeûner. Non. La stratégie. Lorsque nous avons un problème, approche-toi de Dieu dans le jeûne et la prière. Cherche Dieu dans le... Abandonne d'abord ton confort. Dors même à terre si tu veux. Parce que le fait de dormir à terre, ça montre l'humiliation devant Dieu et l'humilité. Sors même de la maison. Va chercher une retraite. Approche-toi de Dieu. Et Dieu va voir comment... Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, bien on le voit. Il était là. Il a demandé donc un jeûne dans tout Juda. Il est écrit au verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Donc tout le royaume est venu à Jérusalem. Pour chercher qui? L'Éternel. Dieu aime quand ses enfants se lèvent comme un seul homme pour implorer sa gloire. S'il y a des problèmes dans la famille, vous êtes deux, trois, quatre chrétiens. C'est vous les chrétiens. Vous vous levez pour prier. Dieu va se glorifier. Alléluia. Même dans le pays, c'est des chrétiens qui se lèvent pour protéger le pays dans la prière. N'abandonne pas. Tous sont venus à Jérusalem. Donc, vous voyez Jérusalem rempli d'un monde. Les gens marchaient, mais c'était au temple. C'était des milliers de personnes à genoux, en train de prier, de dire à Dieu, « On ne nous abandonne pas. Oh Dieu, agis. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta grâce. » Et ils étaient en train de chercher Dieu. Là, le roi s'est levé, quand nous lisons le verset, et le chapitre 20, il s'est mis à prier. Quelle était sa prière? Dans sa prière, Josaphat s'appuie sur l'Éternel et dit, « Ô Éternel, à qui nul ne peut résister ? » À qui nul ? Personne ne peut résister à Dieu. Ma maladie ne peut pas résister à Dieu. Mes couches de nuit ne résistent pas à Dieu. Les repas ne résistent pas à Dieu. La stérilité, les combats ne résistent pas à Dieu. Alléluia. Rien ne peut résister à Dieu. Il a commencé à dire à Dieu, « Voilà ce que tu es. » Il continue à prier. « Ô notre Dieu, exerce tes jugements sur ce peuple qui est venu. » Et là, tout le peuple disait « Amen ». Tout le peuple disait « Amen ». Pendant qu'il était en train de prier, le jeûne et la prière doivent conduire notre vie. Alors si on reste calme, on se pose des questions. Depuis quand tu as jeûné? Depuis quand? J'aime manger, oui, j'aime manger. Depuis quand tu t'es retiré dans une retraite pour prier Dieu, ma vie ne marche pas parce que je suis moi-même le problème. Nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Et quand ils ont cherché Dieu, je vous assure, quand on s'approche de Dieu dans la prière et le jeûne, notre Dieu n'est pas sourd. Il est écrit, « Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. » Et comment il a écouté? On va voir la réaction de Dieu. Le verset 15. C'est maintenant Dieu qui parle. Dieu parle à un prophète qu'on appelle Jassaziel. Va dire à tout Israël et le roi qui est réuni, ne craignez point, ne vous effrayez point. Alléluia. Dieu commence à rassurer ce peuple. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Je disais au premier culte, quand nous voyons la phrase ou les phrases, ne craignez point, ne crains point, n'ayez pas peur. Ces genres de phrases où Dieu nous demande de ne pas craindre. Dans la Bible, ces phrases reviennent 365 fois. Et quand nous voyons l'année, nous avons 365 jours. Ça veut dire que quand je me réveille le matin, chaque jour, la voix de Dieu me dit, ne crains point. Alléluia. Donc je ne crains pas la journée. Je reviens, c'est que mon Dieu m'a dit le matin, ne crains point. Même s'il y a des combats, je marche avec le Seigneur. Parce qu'il est avec moi. Et il continue à dire, aussi, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc ce combat-là, il est pour Dieu, pas pour toi. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Notre silence, c'est des moments de jeûne et prière. C'est ça notre silence. Et Dieu agit pour combattre. Et quand Dieu combat, personne ne peut se gagner. Personne ne peut se lever. Ce matin aussi, notre Dieu veut agir. Et il nous dit, ne crains pas. Ne t'effraie pas. Seulement, aie confiance en moi, parce que dans ton combat, c'est moi. Nous avons beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Juste en parlant des couches et repas de nuit, oui, le diable nous attaque. Le sommeil, c'est le moment où Dieu nous parle. La Bible dit dans les visions nocturnes, pendant qu'on dort, Dieu nous révèle des choses cachées. Mais si pendant mon sommeil, ce ne sont que des combats, et repas, couches de nuit, j'étais en train de combattre, ça devient un problème. La parole de Dieu dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous sommes le psaume 4, le dernier verset. Et il dit encore, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Mais d'où vient que notre sommeil est agité, des combats? Je dois me lever. C'est là où Dieu doit intervenir pour changer les choses. Ça peut être dans mon foyer, ça ne marche pas. Avec ma femme, avec mon mari. Ça peut être dans mon lieu de travail. Ça peut être l'enfant que nous attendons. Ça peut être beaucoup de choses. Le combat, il est perpétué dans notre vie. Mais c'est en l'Éternel que nous devons avoir toute la confiance. Dieu accorde aussi la délivrance. Il est écrit au verset 17. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Vous verrez la délivrance. Que ce matin, Dieu nous accorde la délivrance au nom de Jésus. Vous verrez la délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Il est écrit le Dieu de toute délivrance. Là où je me trouve, il a le pouvoir de me délivrer. Et le peuple écoutait ce que Dieu disait. Il a eu confiance en Dieu. Le roi a eu confiance en Dieu. Une fois de plus, quelle est la stratégie? Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Ça veut dire que l'arme dans ce combat, ce n'est que la louange. Il est écrit « Nomma les chantres et marchant devant l'armée. » Donc l'armée est derrière les chantres. C'est la louange qui est devant. La louange est une arme puissante. Elle crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Parfois, quand tu es troublé, loue le Seigneur. Laisse les prières d'autorité, loue seulement le Seigneur. Mon Dieu est un Dieu de guerre. Mon Dieu est un Dieu de guerre. Oui, mon Dieu est un Dieu de guerre. De créer la confusion dans le camp de l'ennemi. Voilà ce qui est écrit. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. Je veux rendre ça clair. Les fils d'Ammon et de Séir, c'est eux la coalition qui est venu attaquer Israël. Dieu a créé un esprit de confusion. Ils se sont entretués. Donc, ils voyaient son ami un ennemi. Ma prière est que ce matin, que Dieu frappe de confusion tes ennemis au nom de Jésus. Oui, qu'il soit de confusion là-bas. Et que tu restes dans la victoire. Et quand Dieu les a frappés de confusion, Qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit au verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, il regarda dans le désert. Donc, Judas est sur la hauteur, il aperçoit en bas le désert. La hauteur, c'est les bénédictions. Quand nous entrons dans nos hauteurs, le désert est en bas. Je ne suis plus dans le désert. Maintenant, je marche avec le Seigneur dans la gloire. Alléluia. Alors, entre dans ta hauteur aussi au nom de Jésus. Nous devons être dans le hauteur. Et ensuite, quand il y est arrivé donc, au verset 24, « Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Personne n'avait échappé. Tous ceux qui sont venus combattre Israël, c'était des cadavres. » Je n'ai pas dit qu'il faut prier pour qu'il meure. Hein? Nous avons l'habitude. Seigneur, tue-le. Il est mort. Ici, là, c'est la Bible qui dit que c'était des cadavres. Maintenant, s'il devient des cadavres, laisse Dieu faire. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il est écrit, verset 25, « Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage, car le butin était considérable. » C'est-à-dire, le royaume de Juda est venu récupérer ce que l'ennemi avait volé. Donc ce matin, il faut récupérer ce que le diable a volé dans ma vie, au nom de Jésus. Je récupère. C'est ma bénédiction. C'est ma grâce. Celui qui s'oppose à ma destinée tombe au nom de Jésus. Parce que j'avance avec le Créateur, j'avance avec la puissance du Tout-Puissant et je récupère ce que le diable a volé. Mais ce n'est pas fini, il est écrit alors, nous allons prendre ici le verset 30. Le royaume de Josaphat fut tranquille et Dieu lui donna du repos de tous côtés. Il n'y avait plus de combat. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de couches de nuit, les repas de nuit, les stérilités. C'était fini. Il est entré dans le repos. Alors ce matin, entre dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Que ce repos t'accompagne. Que ce repos te bénisse. Je voulais en finir donner un témoignage. Il y avait une soeur qui s'était mariée. Et c'était un très bon couple. Hein, qui aimait l'Éternel. Chaque jour à l'église, il venait prier. Mais un jour, cette sœur est tombée malade. Et c'était au niveau du ventre. Elle avait tellement mal. C'était atroce. Elle ne faisait que gémir toute la nuit, tourner. Le mari dit non. Allez, on part à l'hôpital le lendemain. On la mène à l'hôpital. Elle directement entre dans le coma. Et quand le médecin, le sculpte, regarde, c'était tellement grave, il appelle son mari. Il dit, monsieur, venez. Cette décision, c'est vous qui devez la prendre, pas moi. Votre femme a des trompes bouchées, malades et autres. Si nous la laissons comme ça, elle va mourir. Donc pour sauver sa vie, il faut qu'on enlève les 2 trompes. Et le médecin dit au mari, vous avez déjà un enfant? Il dit non, non, non. Vous pensez quoi? Le mari dit, j'aime ma femme. Les trompes c'est quoi? J'aime ma femme. Enlevez-moi ça. On a enlevé les trompes. État de convalescence à l'hôpital, à la maison. La femme est devenue bien, elle était guérie. Et puis, à la maison, une année et demie, le mari est calme. La femme commence à dire au mari, mais attends, je ne comprends pas. Dans un couple, quand il n'y a pas d'enfant, c'est le mari qui se lève pour chercher les solutions. Mais tu es trop calme là, il y a quoi? Non, faut me dire, il y a quoi? Tellement que la femme mettait la pression, le mari lui a dit, voyez, écoute, quand tu étais malade, c'était tellement grave, tu allais mourir. Le médecin m'a appelé. Et il m'a dit, voilà ce qui se passe dans le corps de ta femme. Si on n'enlève pas les trompes, elle va mourir. Et j'ai dit au médecin, enlevez les trompes. La femme regarde, tu as dit qu'on enlève mes trompes. Elle a commencé à veiller, oh, je suis morte. Non, tu n'es pas morte. Et ensuite, le mari dit à sa femme, je t'aime plus que les enfants. Restons, non? Prions aussi, Dieu ne sait pas ce que Dieu peut faire, prions. Il dit, quel est Dieu? Là où il n'y a pas la trompe, quel est Dieu? Il dit, ayons confiance en Dieu. Et ils ont commencé à prier. Un jour, il dit non, on va voir le pasteur, on prie ensemble, on prend un programme de prière. Ils ont pris un programme de prière, c'est ça que j'ai dit, quand il y a la coalition, hein, il faut qu'il y ait l'entraide. Hein? Il faut des gens pour nous soutenir. Le pasteur priait, priait, et Dieu revient le pasteur, il donne la prophétie. Il dit, ah, j'ai vu que tu as accouché, mais tu as accouché dans des bonnes conditions. Le mari dit, amen, je scelle dans le sang de Christ. On a l'habitude de sceller, non? Je scelle. Ils sont rentrés à la maison. 2 mois, 3 mois après, la femme commence à voir son corps. Bon, ça, c'est les femmes qui comprennent ça. Nous, on ne comprend pas ça parce qu'on ne porte pas l'enfant. La femme commence à voir son corps un peu changé. Elle dit à son mari, ah, voilà ce que je ressens. Le mari dit, alléluia. Je scelle dans le sang de ce bébé. Tu vas accoucher au nom de Jésus. Et puis, elle était réellement enceinte. Le ventre avance. Le jour où elle va accoucher est arrivé. Ils sont partis donc à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, le médecin regarde, dit, oh, allez, directement dans le bloc. Ils sont dans le bloc. Et là, le médecin se rend compte que tout est compliqué. L'enfant, je ne sais pas comment on dit, l'autre sens. Parce que l'enfant, je crois, sort par la tête. C'était maintenant les pieds, l'enfant est horizontal. Le médecin dit, mais je n'ai jamais vu ça. Je donne un conseil aux mariés. Quand ta femme est enceinte, accompagne-la à l'hôpital. Elle reste à ses côtés et prie. Je parle en connaissance de cause. Reste devant là, même si c'est césarienne. Reste devant le bloc. Commence à intercéder parce que la naissance, c'est un combat. C'est un combat, je vous assure. Et on a dit au monsieur, on a écrit une ordonnance, voilà, va acheter ça très vite. Une ordonnance au moins de 150 000. Il dit, mais comment? Ok, il prend pour aller acheter. Quand il arrive en route, il dit, mais n'est-ce pas le pasteur avait dit que ma femme va accoucher dans des bonnes conditions. D'où vient que il prend le téléphone, il appelle le pasteur. Allô, pasteur, oui. C'est moi tel. Le pasteur dit, oui, je le sais. Bon, là, on m'a dit d'aller acheter une ordonnance de 150 000. N'est-ce pas tu avais dit que ma femme va accoucher dans des bonnes conditions? Le pasteur lui dit, je t'ai dit ce que Dieu m'avait dit. Si tu veux aller acheter, va l'acheter, ce n'est pas un problème. Il fait demi-tour, il revient à l'hôpital. Le médecin attend les médicaments. Le monsieur se présente vers le médecin sans médicaments. Le médecin lui dit, mais monsieur, où sont les médicaments? Il se redresse. Dieu a dit. Alléluia. Il dit, Dieu a dit que ma femme va accoucher dans des bonnes conditions. Le médecin se fâche comme il ne s'est jamais fâché. Vous êtes malade? Ça me fait 25 ans de service. J'ai eu des cas comme... Vous êtes un assassin. Quand on est en train de blâmer le monsieur, de l'autre côté, d'autres médecins sortent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le médecin explique le problème. Tout se met en train de blâmer ce monsieur-là. Vous êtes un assassin. Vous avez... Si la femme la meurt, c'est vous qui êtes assassin. Pendant qu'ils sont en train de blâmer dans le bloc opératoire, on entend les cris. Alléluia. La confiance en l'Éternel. L'enfant est né sans sage-femme, sans médecin. La femme était seule. L'enfant est sorti. L'enfant qui était horizontal, ou je ne sais pas comment là. L'enfant est sorti parce qu'ils ont eu confiance en l'Éternel. Alléluia. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Oh, il agira. Dépend de lui, il agira. On se lève, on se lève. Ma vie est en ses mains, il agira. Oh oui, il agira. Mon foyer est Mais je veux que tu prennes ce problème maintenant à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Comme tu as fait pour Josaphat, fais aussi pour moi ce matin. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance, confiance, Père de bonté.
Je te fais.
Nous bénissons ton nom parce que tu règnes à jamais. Ce matin, chacun est venu avec son problème. Nous remettons ce mot en tes mains. Nous sortons d'ici, étant bénis, étant restaurés par la gloire de Dieu. Parce que tu règnes à jamais. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. À toi la puissance. À toi la puissance. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Touche les cœurs.
Seigneur, je te fais.